Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. La carte blanche de la semaine sera l'occasion de revenir sur une des rencontres des transmusicales avec l'artiste espagnol Raúl Refré. Pour les deux albums découvertes de la semaine, Marcus de Radioactive nous présente le groupe Angevin Extra et leur dernier album Blue Jeans. Tout de suite, on retrouve Ludo de Radio Béton accompagné du groupe Tourangeau d'Indie Folk Opaque.
Révérence, titre d'ouverture de Songs for a Second Grace, le nouvel album de Opaque, sorti chez Figure Libre Records et Reverse Tapes. Une ambiance d'une folk intemporelle, douce, subtile, autour des cordes, qu'elles soient frottées, pincées, frappées, où l'on retrouve guitare, violoncelle et autres claviers, des textes introspectifs, sublimés par des harmonies de voix délicates. Vous êtes avec Ludo de la Radio Béton à Tours et nous avons le plaisir de recevoir deux des protagonistes de la formation Tourangelle Opaque, Pierre-Alexis Cicotro et Pablo Coudrin, pour parler de cet album. Bienvenue dans Dig Dig Diggers sur les ondes des radios Ferrarock.
Coucou.
Salut.
Bon, Opaque, à la base, c'est ton projet, PAC, et qui est Pierre-Alexis Cotreau, pensé initialement comme un espace personnel d'expérimentation qui aura donné lieu en 2020 à l'album In Fragment, un disque qui fait la part belle aux instrumentations assez denses, aux ambiances brumeuses et introspectives, enregistré sur un 4 pistes chez toi à l'époque. Où tu étais un peu dans ta bulle, une bulle que tu as dû élargir pour l'adapter en live. Une bulle où l'on retrouve, version élargie, dans ce second album, eh bien, toi, accompagné de Brisca Duo à la batterie, Philémon Tranchant à la guitare, et toi, Pablo, à la guitare et aussi au chœur, pour une écriture un peu plus collégiale cette fois-ci.
Oui, c'est ça, en termes d'arrangement surtout.
Ouais, c'était ça, plus... Un peu dans la même lignée que comment on adaptait In Fragments, où les chansons étaient déjà prêtes. Après, les arrangements étaient déjà prêts pour In Fragments. Après, on est arrivé du coup avec Philémon, Brice et moi et Simon à l'époque pour adapter ces choses-là en live. Et donc après, quand la formation a un peu évolué au fur et à mesure des concerts, des lives, On est du coup on était plus que quatre maintenant avec Phil, Brice et moi. Et les chansons étaient prêtes déjà, mais pas les arrangements. Du coup là, il y avait plus on pouvait un peu plus mettre notre patte et notre identité à chacun pour adapter les chansons. Et après, ça s'est fait assez naturellement un peu de bah les chansons sont faites et hop, on fait les arrangements, on répète et on les teste en live. Et après, ça s'est fait l'enregistrement classique, quoi.
Ça a été le même procédé, du coup, en solo, d'écriture en solo dans un premier temps, et après, appel au reste du groupe.
Ouais, exactement.
Pour étoffer ça.
Bah, en fait, j'avais commencé à faire des démos, des chansons, de la même manière que j'avais fait pour Infragments. Donc, dans ma chambre, chez mes parents, avec plein d'instruments, un peu un bazar, comme d'habitude, désorganisé. Et là, je me suis dit, au lieu de faire comme la dernière fois, parce que c'était quand même assez bordélique de reprendre les chansons en live que j'avais fait chez moi, ce serait plus cool cette fois-ci de reprendre le truc un peu à la racine. Et comme a dit Pablo, après, de maintenant que les chansons étaient faites, d'arranger ça tous ensemble pour avoir vraiment quelque chose de collégial, comme tu dis.
Comment on arrive, Pablo, justement, dans un travail, dans un projet où beaucoup est déjà écrit à l'avance ?
Bah, c'est assez différent de quand tu fais de la musique tout seul et que tu écris justement tout seul. Là, il y a plus une chose de mettre en valeur la chanson de base, vu que c'est des chansons quand même assez folk, donc guitare-voix ou piano-voix, des choses très épurées, mais justement dans les arrangements, de pas trop se perdre dans trop de fioritures et de garder l'essence de la chanson. Enfin, c'est quand même quelque chose à chaque fois que j'essaie de faire avec Opaque, de pas en rajouter trop, et je pense qu'on est tous les quatre, enfin tous les trois, du coup, dans le plus en arrangement, à essayer de faire ça, de mettre en valeur ce que Pac il a essayé de faire de base. Et après, oui, il a toujours un peu le chef d'orchestre, quoi. S'il y a quelque chose, justement, ça va pas trop dans la direction initiale de la chanson, il va nous le dire et on va peut-être plutôt aller dans ce chemin-là, mais sans nous couper les barrières, quoi. C'est quand même assez libre pour les chansons.
C'est pas un dictateur.
Non.
Non.
Ça, tu laisses quand même la part belle aux possibilités des autres musiciens.
Ah, bah oui, mais d'autant plus que c'est des. Enfin, moi, je suis hyper fan de ce qu'ils font tous de leur côté. Et à chaque fois qu'on fait des trucs ensemble, ils ajoutent quelque chose que moi, j'aurais pas été capable de faire en solo. Et du coup, je trouve ça quand même plus beau dans la musique de pouvoir partager quelque chose que de constamment être enfermé tout seul. Donc, évidemment, je leur laisse la place.
Toi, Pablo, tu as aussi un projet de ton côté qui s'appelle Common Insight, qui a un peu le même parcours que Opaque, dans le sens où tu étais en solo, tu as enregistré ton premier album tout seul aussi chez toi et tu as étoffé tout ça avec d'autres artistes qui t'accompagnent.
Carrément. Bah, je pense que c'est un truc qui se fait quand même assez régulièrement dans les projets folk, chansons, enfin, les choses un peu DIY. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés avec Pac, en fait. Lui, il m'envoyait les premières versions d'Infragments. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais en train de composer le premier album de Common Insight. Et du coup, il y avait un truc d'échange de « Ah bah, comment toi tu fais ?» Genre, on était tous les deux un peu en train de découvrir comment utiliser Logic pour enregistrer et tout. De « Ah bah, tu fais comment pour mixer ça ? Tu fais comment machin ?» Et on s'envoyait les différentes versions. Du coup, le lien, il s'est fait comme ça, déjà musicalement avec Pierre-Alexis. Du coup, c'était assez rigolo, quoi. Et après, on a vu justement quand les deux disques étaient sortis, tout le temps un peu les comparaisons, mais... C'est normal, quoi. En même temps, on est dans une petite ville avec peu de projets folk dans cette image-là, du coup, c'est normal.
Yeah.
cas, il y a ce travail justement d'harmonie de voix, arriver à se caler, à trouver les timbres correspondants, c'est quand même un gros taf derrière.
On a beaucoup écouté les Beatles et les Beach Boys. Mais après, d'autres trucs, c'est des codes encore, tu vois, je pense à des Simon & Garfunkel, des trucs comme ça, où c'est vraiment essentiel, et du coup, à force d'en écouter, on se dit, ok, quand t'arrives à reprendre un peu ces codes-là. C'est un taf quand même qu'on a pas mal fait en studio aussi, de bien caler les voix et tout, c'est quand même pas évident.
Est-ce que c'est ce qui a été aussi un peu, si je peux rajouter, de vachement différent par rapport à Infragments? C'est que Infragments, la voix était toujours assez derrière, on faisait partie du lot. Et donc, parce que moi j'assumais pas ma voix, parce que je suis pas chanteur, tout ça, donc il y a quelque chose d'assez particulier, parce que là, pour cet album-là, on s'est dit, vas-y, on met pas d'effet sur la voix, on va la laisser pure, on va essayer de la mettre plus en avant que d'habitude.
Ouais, c'était plus de travailler avec Lionel, du coup, qui a mixé l'album et qui l'a enregistré aussi. Et même lui, il est un peu plus partisan de ces choses-là, moins, pas trop réverbéré, enfin pas trop trop d'effets, pas trop l'univers psychédélique, comme on peut dire, qu'il y avait sur Infragments, d'essayer de partir au-delà de ça, puisqu'en plus on était quatre sur celui-là, alors que le premier c'était vraiment pack tout seul. Donc du coup, il y avait un truc de, ok, on essaie d'aller sur une autre direction en termes de son aussi, quoi.
C'est ça l'évolution dans Opac, très marquée quand on compare les deux albums.
Oui.
C'est ce son plus brut, plus pur en tout cas.
Oui, parce que quand j'ai commencé à composer Songs for a Second Grace, à la toute origine du truc, je me suis dit, j'ai pas envie d'un Infragments 2, parce que déjà, la vague psyché, c'est bien derrière nous. On commence un peu en avant.
Maintenant, c'est le post-punk.
On a hésité.
Post-punk.
Mais du coup, là, à ce moment-là, perso, j'étais en train d'écouter Peter, Paul and Mary, Simon et Garfunkel, tous les trucs de la vague folk des années 60. Je me suis dit, c'est fou parce que des fois, il n'y a pas de batterie, c'est vraiment juste deux guitares, trois voix. Et rien qu'à ça, si c'est bien fait, c'est trop beau, quoi. Il y a de l'âme. Et je me suis dit, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver ce truc-là avec Opac, mélangé au côté électrique qu'on a pu trouver avec Philémon et Brice avec la batterie, tout ça.
Ouais, c'est ça, il y avait un peu cette idée-là de faire un peu... limite moite-moite, quoi, dans les morceaux plus acoustiques comme Pac, comme les démos de Pac qui nous avaient envoyé quand on commençait à taffer les morceaux en live, et les morceaux qu'on a vraiment arrangés à quatre, où là c'était vraiment deux trois accords sur une guitare qui nous montre en répète, et du coup d'essayer de trouver l'équilibre entre ces deux parties là les parties plus acoustiques déjà bien écrites, bien arrangées par Pac, et celles qu'on a faites à quatre.
Non, on parlait de mise à nu, et c'est ce qu'on ressent aussi dans l'écriture des textes. Il y a quelque chose de très introspectif, de quelque chose aussi d'assez spirituel.
Oui.
Je trouve assez, voire ecclésiastique.
Oui, ça pour le coup, c'est des, mes codes de famille catholique. Voilà, ça on rentre dans un truc un peu plus intime, donc c'est pas toujours aussi facile d'en parler. Mmh. Par rapport à la mort, par rapport à la vie après la mort, les codes que j'ai pu avoir pendant toute mon enfance et tout ce que j'ai pu voir en allant à la messe le dimanche, tout ça, et passer de ça au total opposé en arrivant dans le monde de la culture, ça a été... c'est un peu brutal des fois.
Des cultures.
C'est ça. De passer d'un truc où tout est un peu beau, il y a une vie après la mort, tout ça, tout a un sens. Puis tout d'un coup, c'est un peu comme si t'arrivais à une chute, il n'y a plus rien, et tu te dis en fait... tu te poses la question des fois de à quoi ça sert tout ça, et donc c'est ce que j'essaie de retranscrire par moment dans l'album. Donc il y a beaucoup de trucs autour de la mort, mais c'est pas forcément que la mort en elle-même, c'est la mort comme la mort d'un cycle, la fin d'un cycle, la mort d'une relation, la mort à l'état pur. C'est un peu tout ça, quoi.
Des parcours de vie, quoi, des étapes de vie à chaque fois.
Oui, c'est ça.
Il y a un peu cette recherche de l'équilibre aussi, de l'équilibre personnel.
Oui. C'est ce dont j'avais déjà essayé de parler dans Infragments, mais de manière très floutée, et c'était plus en quelques mots, et là j'ai essayé d'écrire, et justement j'ai pu avoir Pablo, qui a été là pour moi, avec Lionel, pour mettre ça en place, pour que ce soit, vu que je suis pas anglais, pour que ce soit plus compréhensible, qui est quand même le côté, moi, un peu poésie que je voulais essayer d'avancer, mais mieux fait, quoi.
Il y a beaucoup de fragilités qui sont exprimées, des sensations sur Purple Maggot, par exemple, où tu parles de fantômes, des fantômes qui hantent un peu comme ça,
oui.
Et qui nous laissent penser que on peut vite aller d'un côté ou l'autre de la pente.
Oui. Et puis il y a ce côté-là et il y a le côté aussi communauté, où c'est difficile de se sentir appartenir à une communauté et d'avoir constamment l'impression d'être à côté de la plaque.
Oui, c'est ce qu'on retrouve sur pas mal de morceaux, notamment le dernier morceau de l'album, Veneration. Justement, il y a un peu cette comparaison aux autres.
Oui, là tu parles des dernières phrases en français.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Mais même dans d'autres morceaux, il y a des thèmes comme ça qui reviennent un peu, même dans Révérence.
Oui, dans Révérence, c'était aussi d'exprimer un peu le fait de ne pas arriver à comprendre ce qu'il faut faire pour accéder un peu, pour être aux yeux des autres, pour arriver à être... On est un peu dans le centre avec tout le monde. Et c'est ça dont j'essaie de parler également.
Il y a un peu cet écho-là aussi avec un album, un EP qui est sorti l'année dernière, qui est un EP de réinterprétation de 6 chansons de Jean-Luc Le Ténia, le Daniel Johnston du Mans.
Exactement.
Il y a cette sensibilité, en tout cas, au monde que l'on retrouve. Je ne sais pas si c'est des grosses influences ou en tout cas des échos très forts.
Ah si, c'est complètement des grosses influences. Parfois plus fortes que des influences rock du moment, des trucs comme ça. Moi, c'est des trucs qui sont inscrits depuis longtemps, que j'ai toujours plus ou moins écouté. Notamment Jean-Luc Le Ténia, qui est une légende un peu mancelle, et que moi, j'ai toujours un peu porté dans mon cœur, pour tout un tas de raisons, mais surtout pour la sincérité, et le fait que le mec n'utilise pas du tout de fioritures, ça va droit au but, et c'est hyper honnête. C'est beau.
Bien, merci beaucoup les opaques Pierre-Alexis Cottreau et Pablo Coudrin, deux des quatre membres de la formation Tourangelle, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce nouvel album Songs for a Second Grace, sorti chez Figure Libre Records et Rivers Tapes, avec cette très belle pochette, une photo qui reflète bien vos compositions, quelque chose de très nostalgique, très mélancolique, légèrement brumeux, beau, en rappelant des instants de légèreté et de douceur. Pouvant aussi évoquer une personne dont il est question et qu'on n'a pas parlé dans cet album, la mystérieuse Hélène, pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur les ondes des radios Ferrarock.
Merci beaucoup Ludo.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup les opaques.
Bonjour et bienvenue dans Dig Dig Diggers, votre émission Ferra Rock. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Extra A qui nous a ravis avec Out of Phase, un nouvel album sorti chez Requiem pour un Twister. On s'écoute un premier extrait de ce Out of Phase, c'est Hidden Boy, et on retrouve juste après Alix notamment et Antoine au bout du fil. C'est signé Extra, Extra avec 2 A. Comment ça va les musiciennes et musiciens de Extra? Est-ce qu'on est à Angers aujourd'hui?
Bien, on est bien à Angers, et il fait un peu froid, mais ça va.
Merci d'être avec nous sur les radios de la Ferra. Bravo pour cet album plutôt réussi, qui fait suite à Bake It, qui nous avait déjà plutôt interpellés. Bake It, il était sorti en plein confinement, si je ne m'abuse.
C'est exactement ça, ouais. En plein confinement. Vraiment en plein dans le premier confinement.
Et aujourd'hui, bah, vous n'êtes plus dans le confinement, donc forcément vous êtes un petit peu plus serein. Cet album avait quand même permis de faire connaître un peu Extra. Aujourd'hui, comment vous l'avez abordé justement, ce Out of Phase?
Comment on l'a abordé? Un peu de la même manière. Hein. Nous, on est rentrés en studio avec des chansons et... on a voulu passer du temps ensemble à faire en sorte que ces chansons sortent le mieux possible, tout simplement.
Ouais.
Et donc, oui.
Et cette fois-ci, avec la perspective aussi de pouvoir faire des concerts derrière, évidemment.
Oui, ce qui est quand même toujours intéressant. D'ailleurs, ça se retrouve un petit peu sur vos clips. Hein. On sent que vous êtes un groupe qui est un groupe de scène, comme beaucoup d'autres groupes. Mais en tout cas, on sent que c'est là où vous allez vous exprimer. Quand même, est-ce que vous avez réussi un petit peu à tourner les morceaux de Bake It? Parce que bon, le confinement n'a pas duré quand même tout le temps. Vous avez réussi un petit peu à les montrer avant de parler de Out of Phase?
Pas vraiment, non.
Un tout petit peu, ouais, on a fait quelques concerts, mais pas énormément. C'est vraiment un album qui a vécu surtout par Internet, quoi.
Ouais, on a réussi à faire comme une boule noire avant que Out of Phase sorte, mais sinon, on les joue toujours sur scène.
Ouais.
Donc voilà, donc là, en ce moment, on a un set sur scène qui comprend à peu près moitié-moitié de Bake et d'Out of Phase. Un peu plus d'Out of Phase, quand même.
Oui, un peu plus.
Très, très bien. Et du coup, il y a quand même des fondamentaux hein, qui restent. Alors, on va parler de pop, on va parler aussi de son clair, de la guitare. On va parler aussi d'une voix qui, à mon avis, est quelque chose qui est presque apaisé par moment. Une voix qui se pose sans tomber dans les trémolos qu'on peut trouver de temps en temps. Il y a quand même des axes très, très forts chez Extra.
Après, je pense qu'on ne le fait pas vraiment consciemment. Tu sais faire des trémolos, toi? De toute façon...
Non, justement, je ne fais pas de trémolos.
Non, mais est-ce que tu saurais en faire? Oui, bon, on a notre base musicale qui est vraiment marquée de toute façon par l'écriture d'Alix, quoi qu'il arrive. Et voilà, quoi.
Oui, c'est pas forcément quelque chose de très contrôlé, on va dire. C'est un peu aussi ce qu'on ressort de tout ce qu'on est en tant qu'éponge et par rapport à tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on vit, on va dire.
Et ça se retrouve aussi effectivement dans une écriture où les textes sont assez importants aussi. Qu'est-ce qui raconte un petit peu ces textes? C'est quoi, Alix? C'est du retour d'expérience? C'est du vécu? C'est des aventures?
Et bah, c'est tout ça. beaucoup d'éléments personnels, on va dire. C'est vraiment, je suis pas quelqu'un qui va écrire sur la situation politique en France ou dans le monde. C'est plus vraiment des choses personnelles, mais qui se retrouvent de manière assez universelle, je pense.
Très bien. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple?
Bah. Bêtement, on va prendre la chanson All Good ou qui a été faite en plein confinement. Et en fait, c'est un peu un arrêt sur image, un moment où voilà, je me suis sentie bien. J'ai vécu le confinement vraiment plus comme une pause qui me faisait du bien et qui m'apaisait. Et d'ailleurs, pas mal de morceaux ont été composés à ce moment-là.
Mais ils n'en parlent jamais directement, par contre.
Non, jamais vraiment directement. Après, il y a un morceau comme God, par exemple, qui relate plus d'un moment que j'ai vécu et qui m'a marqué et où là, ça parle vraiment d'une situation comparé aux autres morceaux qui sont plus vraiment d'un ordre personnel.
Alors, si tu veux bien, Alix, je vais citer quand même quelques titres parce que je pense que ça peut donner quand même un peu d'indication. On va se passer un petit extrait d'All Good après, si vous le voulez bien. Les titres, c'est God, ça veut dire Dieu quand même. Donc, on pense qu'il y a il y a un peu quand même quelque chose d'important. King Arthur, Hidden Boy, Blue Jeans. C'est des titres qui donnent envie, en tout cas, d'ouvrir ces chapitres-là comme des petites nouvelles, en tout cas.
Bah oui, c'est ça, exactement. King Arthur, c'est une chanson sur mon neveu. Blue Jean, c'est une chanson un peu sur cette adolescence, même lycée, études, où je faisais des concerts partout et on était tous en veste en jean, à écouter du rock des années 2000. Ces années un peu skate aussi. Qu'est-ce que tu as cité ? Eden Boy. Eden Boy, c'est beaucoup quelque chose de plus d'ordre amoureux et de relations personnelles. Et God, c'est une chanson dans laquelle je m'adresse à Dieu.
Et qu'est-ce que tu lui racontes ?
En fait, je lui raconte un jour où je me suis retrouvée dans un bar où quelqu'un est tombé, en fait, a fait une sorte d'AVC et est tombé de sa chaise. Il est tombé sur sa tête en arrière. Et en fait, il était juste en train de boire un demi et c'est arrivé d'un coup. Et j'ai toujours pensé que dans ce genre de situation, j'allais pouvoir être capable de réagir, d'aller mettre la personne dans la bonne position, de lui tenir la main, de lui parler, de lui dire que tout va bien aller. Et en fait, j'ai rien fait de tout ça. J'ai pas réussi à bouger mes fesses de ma chaise, quoi. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et j'ai pas arrêté d'y penser tous les jours suivants. Parce que j'ai appris, du coup, par les pompiers que ce monsieur nous a quittés. Et j'ai eu besoin d'écrire une chanson par rapport à ça. Une chanson que, d'une certaine manière, je lui ai envoyée aussi. This is just reality. Touched. And all his beloved ones all happening at once. He suddenly closed all the doors. Say,
Très beau titre, extrait de l'album Out of Face, signé de Extra A, Extra A, qui sont avec nous au bout du fil sur les radios de la Ferra Rock. On retrouve sur ce God, moi je trouve, ce qui fait aussi votre singularité. On parlait tout à l'heure de son clair, de cordes. Les cordes, elles sont importantes chez Extra. Là, je trouve que ce morceau-là représente finalement, dans sa douceur et cette petite violence contenue aussi qui apparaît, il faut le dire. Ça dit beaucoup de ce que vous faites en général, moi, je trouve.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est un morceau, c'est une balade où il y a une certaine forme de réalisation. Les cordes aussi sur cet album, c'est des éléments qu'on a voulu mettre encore plus en avant. Il y en avait déjà un tout petit peu sur le premier album, mais ça fait partie d'Extra. Et évidemment les chœurs en fait qui sont aussi très 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 présents. Ça, en fait, je pense un peu au Velvet Underground quand j'écoute cette chanson avec les papapas. C'était un peu les professionnels des papapas.
On essaie de faire une chanson légère sans être futile, je pense.
C'est joliment dit, ça.
Ouais, je suis assez fier.
Les punchlines, c'est Antoine.
En tout cas, Antoine, Alix, on vous remercie d'être avec nous, quoi qu'il arrive, parce que on était assez avide quand même d'avoir un peu votre point de vue, parce que vous mettez vraiment votre musique en avant, un petit peu d'image, mais pas plus que ça. Et puis, vous êtes vraiment un groupe à l'image du clip de Somewhere, où j'ai découvert que vous avez quelques talents tennistiques.
Alix, oui, le reste du groupe, pas du tout.
J'ai gagné ma première médaille la semaine dernière, d'ailleurs.
Terre battue, hein, je tiens à préciser quand même. Ça a été la première entrée, ça a été le premier morceau, ça a été le premier single, ce Somewhere.
Ouais, bah, c'était assez logique. En fait, c'était assez naturel pour nous, vu qu'en plus, c'était le premier morceau de l'album. Mais surtout, ça faisait un pont assez. Assez cool entre Bait et Out of Phase, entre les deux albums. C'est vrai que sur le deuxième album, on a des morceaux qui sortent un petit peu du cadre du premier. Et celui-ci faisait le pont et on ne voulait pas non plus perdre les personnes qui avaient apprécié le premier dès le premier single.
Ouais.
Donc voilà, donc c'était un peu une évidence ce morceau. Et ensuite, on a sorti des singles qui étaient peut-être un peu plus marqués, un peu plus différents de Bait.
Un peu plus rock.
Ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que Somewhere, je trouve que c'est un morceau qui représente plutôt bien l'album parce qu'il y a plein de choses différentes et les arrangements sont assez riches.
Et non seulement ça, mais je trouve que le clip représente aussi un petit peu ce que vous êtes chez Extra, c'est-à-dire ça commence, on a l'impression que c'est assez simple, et puis finalement c'est un peu plus élaboré, et puis à un moment ça devient même à la limite du fantastique, c'est ce qu'on voit dans le clip où il y a une disparition comme ça, derrière un arbre, etc. Je trouve que vraiment, j'insiste un peu, mais ça représente pas mal de ce que vous êtes finalement tout ça.
Ouais, sans doute. Après, ce clip, il n'est pas là par hasard. Hein. C'est Alix qui a beaucoup contribué avec le studio prototype qui s'appelait Vision à l'époque, studio Angevin.
Ouais.
Mais oui, Alix a mis pas mal d'elle dans ce clip aussi et je pense que c'est ça qu'on peut ressentir en le regardant.
Donc il y a un peu de magique dans Extra finalement.
Quelque part, oui.
Ouais.
Out of tears for the very first time, out of fears where there's no crime. Somewhere in my room, the city's getting warmer. In my room, I feel like a believer.
Somewhere, maintenant pas sur le Rainbow, mais plutôt du côté d'Angers. Ce Somewhere est signé Extra A, si groupe que nous avons le plaisir d'interroger en la personne de Alix et d'Antoine. D'ailleurs, ça serait peut-être bien quand même de citer les autres membres du groupe, les gars et filles.
Bah oui, c'est sûr. Alors, il y a Pedro qui est à la basse, ainsi que Thomas à la guitare et au chœur. Et il y a également Chris qui nous a rejoint tout récemment. Il a fait en fait tous les lives qu'on fait depuis le deuxième album avec nous et il fait les claviers.
Très très bien. Et du coup, tu disais live, Alix, comment ça s'est passé cet enregistrement? Je le disais tout à l'heure, effectivement, lorsque l'on voit un peu les visuels des clips, vous avez tendance à être très très ensemble, très groupe pour le coup. Est-ce que vous l'avez fait justement plutôt en live ou vraiment c'est dur heureux, vraiment vous aviez bossé chacun de votre côté?
On a fait en live le corps des morceaux, en fait, la basse, batterie, clavier ou basse, batterie, guitare pour chaque morceau en fait. On tenait à ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait sur le premier. Et du coup, on a travaillé différemment, c'est-à-dire qu'en fait, on a joué tous ensemble les morceaux beaucoup avant d'entrer en studio. Là où le premier, en fait, on est parti des démos et puis on a enregistré tel quel, petit à petit, piste par piste.
C'était plus réfléchi, là.
Ouais. Et ça se sent. Il y a un beau son hein, vraiment sur cet album là encore je rappelle qu'il est paru chez Requiem pour un Twister on sent qu'il y a eu un petit peu du boulot à ce niveau là, c'est ce que je veux dire quoi.
On y a passé beaucoup de temps et en fait on a fait une première partie au studio Claudio chez Alexis Fugain, donc au même endroit que le premier album.
Très bien.
Où là on a fait le live la voix principale et des claviers. Et ensuite, on est allé au Red House en Champagne-Ardennes. Et là-bas, on a fait tout ce qui était arrangement de cordes, des percussions, tous les chœurs.
Et le mix.
Mix aussi. Et voilà, tout ce qu'il fallait en plus, quoi.
Vous avez pas mal occupé de pistes, hein. C'est vrai que là encore, hein, j'invite tout le monde à bien l'écouter de près cet album parce que voilà, on a une première approche guitare, voix, batterie, etc. Sauf que en creusant, on se rend compte qu'il y a bien plus de choses que ça. Vous êtes fait plaisir quand même, un minimum.
On s'est fait beaucoup plaisir. On s'est un peu cru comme les Beatles, ils pouvaient expérimenter sans regarder l'heure, quoi.
On a pu passer beaucoup de temps au studio aussi puisqu'on a eu une aide du Fonds Régnier. Un fonds de mécénat qui nous a permis de passer beaucoup plus de temps que le premier album en studio. Et oui, il y a eu beaucoup d'expérimentations. Il y a des choses improbables, genre nous qui allons chercher pendant toute une soirée comment doubler une caisse claire avec un pinceau et une crêpière, ce genre de truc. À tester toutes les casseroles de la cuisine du studio pour avoir le meilleur son possible.
On a fait des castagnettes aussi avec une cuillère en bois.
On a fait des castagnettes qu'on a cachées à une cuillère en bois parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas joué des castagnettes. Il y a eu beaucoup de trucs.
Ouais. Et puis, sur King Arthur aussi, on a fait venir toutes les personnes qui étaient dans le coin, que ce soit dans la maison ou dans le studio, pour chanter les refrains avec nous.
Ouais. On voulait pitcher pour que ça fasse des voix d'enfants, mais ça n'a pas marché. Donc, on l'a gardé pas non.
Mais c'est des choses qui n'étaient pas forcément prévues, quoi.
Mais c'est génial de se dire qu'on peut encore expérimenter comme ça à travers un groupe, qu'on peut s'amuser tout simplement, s'amuser à chercher des choses avec une pression économique et sans vraiment pression économique non plus.
Bah nous, on n'a pas de pression économique parce que ce sont les producteurs de notre album.
Ouais.
Donc, même si c'est Requiem qui le publie. Mais non, on avait zéro pression, mais c'est vrai que passer autant de temps en studio, c'est quelque chose de rare maintenant. Et si ça arrive aux musiciens qui nous écoutent, il faut savoir vraiment en profiter, quoi. Pas juste faire la fête, même s'il faut la faire un petit peu.
Ah mais Angers, on fait la fête raisonnablement, non?
Ouais.
Un petit mot aussi sur ce titre en français, tiens, pour le coup, Alix, parce que tu es plutôt anglophone dans ton expression. C'est une reprise de Niagara, quand la ville d'or. Comment ça se fait qu'on retrouve ce titre sur l'album?
Moi, j'avais envie d'une reprise dans l'album et une reprise en français. Je trouvais ça assez challengeant d'essayer de faire ressentir une couleur comme la couleur qu'on met d'Extra sur un morceau qui n'a un peu rien à voir avec Extra. Et c'est Antoine, en fait, qui m'avait envoyé ce morceau de Niagara. Mmh. Et tout de suite, en l'écoutant, c'est venu très rapidement la version qu'on a aujourd'hui.
Ouais, une version un peu Beach House. C'est pas forcément prévu, mais c'est comme ça que ça s'est passé, donc on est resté dans cette direction.
En tout cas, Extra, c'est un groupe qui se fait plaisir, qui nous fait plaisir avec ce très très bel album, et ça, je tiens aussi à le dire. Si on veut suivre vos aventures, si on veut suivre, tiens, par exemple, si on veut savoir si Extra se produit à proximité de la ville d'où on habite, comment on fait?
Les réseaux sociaux, Instagram principalement, Extra avec 2A, _pop.
Alix, Antoine, merci beaucoup. C'était un plaisir que de vous avoir avec nous. Évidemment qu'on recommande ce Out of Phase à tous les auditrices, tous les auditeurs et auditrices de la Ferra Rock. Et puis évidemment qu'il faut aller voir Extra sur scène aussi, parce que c'est aussi un groupe de scène. Et encore bravo pour ce très bel album paru chez Requiem pour un Twister. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Le temps.
En décembre 2023, les radios de la Ferra Rock se sont réunies pour couvrir le Festival des Transmusicales de Rennes. L'occasion de découvrir et de rencontrer des artistes internationaux. Loïc, de Radio Dio, s'est notamment entretenu avec le producteur espagnol Raoul Refré, accompagné par Pablo, de Radio Béton, pour la traduction.
Eh bien, nous sommes en direct de Rennes, de lieu Liberté, et on a le plaisir de recevoir Raoul Refré pour une interview. Raoul Refré, venu de Barcelone, bonjour à toi.
Bonjour, bonjour.
À l'occasion de sa date au Transmusical et pour accompagner la sortie de son disque El Espacio Entre. Désolé pour l'accent.
Non, c'est pas fait
très bien.
Avec des hispanophones. Alors, Raoul, tu es producteur, compositeur, musicien. Tu as quelque chose d'un univers très cohérent, très fort, une identité très très forte, quelle que soit la manière dont tu travailles. Et je me demandais, avec tous les gens avec qui tu as travaillé, etc., où tu t'investis vraiment à l'intérieur de la musique, qu'est-ce que tu appelles ta musique et comment tu rentres dans celle des autres?
Yo creo que una cosa que para mí siempre ha sido muy importante en la música ha sido sentirme libre, no sentirme nunca atado ni a lo que ya he hecho antes, ni a cuestiones económicas, por ejemplo, sino sentirme con la libertad de poder decidir lo que yo quiero hacer. Y en este sentido, tanto cuando trabajo en mi propia música, intento ser lo más libre posible y no guiarme ni por estilos, ni por lo que he hecho antes, ni nada, pero también creo que cuando ha venido gente a buscarme para que les produjera, para trabajar conmigo, también siempre me he sentido muy libre de elegir con quién quería trabajar. Y yo creo que he creado una carrera a partir de estas decisiones, siempre bajo esta premisa de la libertad.
Et bah, il a toujours justement en fait voulu être un artiste libre. C'est vraiment un peu son credo de pas se sentir attaché ou restreint par un genre, par un style. Et il y a également cette volonté là quand il collabore, quand il y a des personnes qui veulent collaborer avec lui, de pouvoir choisir, avoir la liberté justement de choisir avec qui il collabore et justement aussi d'avoir un peu son empreinte créative et artistique quand il collabore avec d'autres personnes. Et donc ouais, c'est un peu le mot d'ordre de sa création et de sa musique, c'est être libre.
Ça va être le mot d'ordre de cette interview de toute façon, parce qu'on va parler justement de la manière dont tu éclates beaucoup les frontières. Je voulais m'arrêter sur ton instrument, la guitare, d'autant que tu as aussi travaillé avec des grands noms du flamenco, Lee Ranaldo de Sonic Youth. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu vois cet instrument, quelle est ta relation à la guitare?
Mi primer instrumento en realidad es el piano. Yo estudié cuando era pequeño piano clásico, lo que pasa que con un tipo de relación con el piano muy complicada, porque la educación clásica a veces no es fácil, cómo te obligan a relacionarte con el instrumento y con la música. Y creo que yo pasé a la guitarra como reacción hacia toda esta educación y hacia lo mal que lo había pasado. Y creo que en la guitarra yo sigo tocando, bueno, a mí me gusta tocar muchos instrumentos, nunca me he considerado para nada alguien que busca la técnica, sino que yo utilizo los instrumentos para llevar a cabo lo que tengo en la cabeza. No necesito más técnica que eso. Cuando necesito aprender más, lo hago, pero porque necesito traducir lo que tengo en la cabeza. Pero lo que estaba diciendo es que yo creo que en la guitarra guardo aún esta relación de haber llegado a ella a partir de una reacción contra otra cosa, ¿no? Contra un tipo de educación. Y por tanto, mi manera de tocar la guitarra siempre ha sido muy punk, si quieres, muy... Me gusta mucho tocar los instrumentos de una manera muy visceral, ¿no? Notándolo sin pensar mucho, ¿no? Reaccionando. Y creo que Lee, por ejemplo, con quien tú decías que he trabajado durante mucho tiempo y tenemos una buena amistad, creo que ellos también llegaron a la guitarra desde este punto de vista, ¿no? Siempre intentando romper una manera de entender la música muy limitada, ¿no? Ellos expandieron la manera de tocar la guitarra.
Alors, son premier instrument, c'est pas la guitare, c'est le piano. Il a commencé par le piano et de manière classique, formation classique. Et c'est également peut-être ça qui l'a frustré, cette manière d'apprendre la musique vraiment d'une manière très formelle, très traditionnelle. Et donc, il pense qu'il est allé vers la guitare d'une sorte de réaction, une réaction en chaîne de « j'aime pas la manière dont j'ai appris le piano ». Donc du coup, je vais sur un autre instrument. Et du coup, il y a une manière un peu punk d'approcher la guitare. Et il voit ça aussi sur tous les instruments qu'il va jouer. Il a quelque chose en tête, il va aller vers cet instrument-là, même s'il ne le connaît pas. Et s'il y a un problème technique, s'il a envie d'aller au plus loin, c'est parce qu'il a vraiment une idée en tête. Et du coup, c'est vraiment par contrainte et il va toujours avancer. Mais donc, la manière aussi dont il a collaboré avec Lee Ranaldo, c'est parce qu'il pense que aussi toute cette bande-là, et Lee en particulier, voit la guitare également de cette manière-là, une sorte de réaction et de pousser l'instrument à autre chose qu'il est de base, mais qui garde toujours cette idée de... C'est une réaction au fait que j'ai pas aimé apprendre le piano classique.
J'ai l'impression qu'il y a aussi un intérêt à la guitare par rapport à une partie de ce que je vois que tu recherches, c'est qu'elle est présente dans énormément de musiques différentes et qu'elle permet beaucoup de ponts. Et c'est vrai qu'entre tes disques personnels, les rencontres et collaborations que tu as pu faire avec Cocagna par exemple pour les polyphonies occitanes, Lina pour le fado, Rosalia pour le côté reggaeton, j'ai l'impression que tu participes à une scène mondiale qui est en train d'essayer de casser les murs entre les musiques traditionnelles et les musiques dites modernes, et qui est vraiment dans le monde entier. Est-ce que tu sens, toi, cette énergie collective depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, qui vraiment essaye de travailler là-dessus ?
Para mí es importante siempre decir que no sé por qué me pasa esto, pero a mí me cuesta mucho ver los límites estilísticos, ¿no? Yo entiendo la música al final de una manera muy reactiva otra vez, ¿no? Por sensaciones y no es un trabajo intelectual. No pienso voy a hacer un disco de flamenco, voy a trabajar en un disco de música electrónica, sino que yo reacciono a lo que noto y voy hacia esa dirección. Y en este sentido, al reaccionar, la música tradicional a mí siempre me ha... Yo creo que me ha inspirado mucho y me ha llegado mucho, no sé por qué, yo creo que es por una cuestión genética. Creo que la música tradicional la llevamos todos en nuestro cuerpo sin saberlo, y seguramente debido a que últimamente, en los pasados 20, 30 años, la música tradicional fue muy tocada por músicos con mucha técnica, creo que se acabaron escondiendo bajo toda esta técnica muchas de estas melodías que son preciosas. Y de golpe, cuando las descubro, en realidad tengo que hacer muy poco, tengo que desnudarlas y al final tocar mucho menos, y todas estas melodías tan intensas y tan preciosas salen a la luz. Y bueno, yo creo que esta es la razón por la cual he acabado tan involucrado en la música tradicional. He hablado mucho, me parece, pero...
Bon courage, Pablo.
En fait, comme avec la guitare et un peu comme au début, comme il disait, c'est une réaction aussi de... une réaction par rapport à la musique. Il voit pas forcément les genres et du coup c'est plus une sensation qu'il va avoir de s'il aime ou s'il aime pas, et du coup il va y aller. Et par rapport à la musique traditionnelle, en fait il pense aussi qu'il y a eu un gros bagage et un gros passif de musiciens et musiciennes très techniques qui vont utiliser tout ce répertoire traditionnel, et que en fait il y a des très belles mélodies derrière, et que en fait lui son but ça va être aussi de peut-être de le dénuder au maximum pour récupérer ces petites mélodies là et encore une fois c'est de la sensation, c'est pas vraiment une question d'aller vers le traditionnel, même si c'est un peu aussi là où t'as grandi qui a fait que
ça te touche particulièrement, la musique traditionnelle.
Ton dernier album, il s'appelle El Espacio Entre. J'ai l'impression qu'on parle de ça. Est-ce que tu peux nous décrire cet espace que tu as voulu créer dans ce disque ? Cet espace entre.
Oui, oui, oui. El Espacio Entre significa muchas cosas. Una de ellas es como un pequeño homenaje al espacio que hay entre las notas, casi, ¿no? Entre el silencio, en realidad. A veces tendemos a creer que lo importante es lo que suena, pero lo que suena no tendría esta emoción si no, antes no hay un espacio, si antes no hay un silencio. ¿Quieres traducir esto y sigo con la respuesta?
Alors, l'espace entre, donc la traduction de espacio entre, c'est aussi d'une manière de parler de l'espace entre les notes, donc les silences. Et parce que si les notes, si la musique a de l'impact, c'est parce qu'il y a aussi ces silences avant ou entre les notes. Et c'est pour ça, c'est un petit hommage justement à cette sensation de silence avec la musique.
Pero también quería hablar de lo rápido que cambiamos, ¿no? Y de las cosas, cómo nos afectan las cosas. A mí me pasa que a veces compongo algo por la noche y de golpe cuando lo vuelvo a tocar al día siguiente yo soy ya otra persona, ¿no? Es este espacio entre el momento en que lo compones, el momento en que lo vuelves a tocar, el momento en que lo grabas y, como hoy, el momento en que lo tocas en directo, ¿no? Vas siendo personas distintas y, por tanto, la manera de entender es también distinta.
Y puis c'est aussi une sorte de clin d'œil au fait que tu vas créer quelque chose et après tu vas le rejouer le lendemain et tu vas pas être la même personne. Tu es toujours en constante évolution et du coup l'espace entre ces différentes personnes, ou même ce soir quand il va faire sa musique en live, ça va pas être la même personne qui va la jouer que quand il l'a créée. Et du coup aussi un petit hommage et un petit clin d'œil à ces différentes personnes-là quand tu fais la musique.
Tu as sorti ce dernier album sur le label Glitter Beats, qui est un label très créatif, qui sort vraiment des groupes du monde entier, qui essaye d'exploser un petit peu ces fameuses frontières. Est-ce que tu as suivi ce label un petit peu ? Est-ce qu'il fait sens pour toi justement à ce niveau ?
Glitterbeat es un sello que me encanta. Estoy muy orgulloso de formar parte de este sello. Yo es un sello que había seguido mucho y empezamos a tener relación hace años con un disco que hice de guitarra sola, que sacó el sello del Primavera Sound en Barcelona. Eran una colección de EPs y ellos se empezaron a interesar por mi manera de entender la música, y desde entonces, desde que empezamos a trabajar juntos con Chris Ekman especialmente, que es uno de los directores del sello, hemos tenido una relación que va más allá de sello artista, sino que a mí me gusta mucho mandarle ideas que tengo, él me cuenta qué le parecen, ¿no? Que yo creo que entre los dos o entre todos construimos un poco lo que son los discos también. Y esto pasó también con este nuevo disco, con El Espacio Entre, porque yo tenía como muchas composiciones que había hecho para películas, que había hecho para otras cosas, y de golpe se lo mandé y él me dio un punto de vista muy claro para poder continuar con todo esto y hacer que fuera un disco.
Alors Glitter Beats, c'est un label qu'il a toujours aimé, il a toujours un peu suivi les sorties, et il y a eu un premier EP de musique instrumentale qui a été sorti pour le Primavera Sound à Barcelone. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a une relation qui s'est créée avec Chris Ekman, c'est ça, qui est donc le président du label, enfin le directeur du label, le boss, le big boss du label. Et donc il y a une vraie relation d'échange qui s'est créée à partir de ce moment-là, d'envoyer des nouvelles musiques évidemment, mais aussi de donner des nouvelles idées par rapport à ce label-là. Et il y a vraiment une relation amicale avec ce label. Ouais. C'est pas juste un échange musical ou de business, quoi. C'est vraiment un échange humain aussi avant tout.
J'avais une toute dernière question. Je voulais m'arrêter sur un des titres de ton dernier album, et c'est un peu égocentrique, hein, c'est pour parler de moi et de nous, Pablo. Il y a un titre qui s'appelle La radio en la cocina, et j'avais envie de t'interroger un petit peu sur ton rapport à la radio, justement, à cet objet, à cet outil.
Es una canción del disco que me gusta mucho porque está inspirada en cuando yo era pequeño. No sé si a vosotros os ha pasado también, pero en mi casa, pues mi abuela tenía la radio puesta mientras estaba en la cocina, y era como, a lo mejor no había nadie en la cocina, pero la radio estaba puesta, ¿no? Y a lo mejor yo estaba en mi cuarto jugando, pero pasaba por delante de la cocina y te pegabas un poco un susto porque parecía que hubiera mucha gente y era la radio, ¿no? Me gusta mucho esta idea. Es una canción que tiene como frecuencias constantemente sonando mientras hay una melodía que pervive por encima de las frecuencias. Es como tener esta radio puesta todo el tiempo.
Donc ce titre-là, c'est un hommage à la radio, en fait, quand il allait chez sa grand-mère. Enfin, il nous a demandé si on a aussi vécu ces choses-là, mais quand il allait chez sa grand-mère,
moi, c'était aux toilettes.
Voilà. Lui, il y avait l'autoradio, enfin pas l'autoradio, mais la radio, le poste de radio, qui était dans la cuisine. Et du coup, des fois même, ça l'effrayait parce qu'il a l'impression qu'il y avait beaucoup de monde dans la cuisine. Et en fait, non, c'était juste la radio qui jouait. Et donc dans cette musique-là, il a joué avec plein de fréquences, justement. Avec une mélodie qui va se balader entre toutes ces fréquences-là, et une sorte d'hommage justement à cette radio qu'on en avait chez nos grands-parents ou dans la famille.
Ben merci beaucoup Raoul d'avoir
merci pris à toi.
Quelques instants pour répondre à toutes ces questions.
Merci, un plaisir.
L'émission des radios Ferrarock. On vous présentait l'album Songs for a Second Grace par le super groupe Opac, sorti le 8 décembre chez Figure Libre Records. Blue Jeans, le dernier disque du quartet de pop psyché Extra, est quant à lui disponible depuis le 17 novembre chez Requiem pour un Twister. La carte blanche de la semaine était dédiée à l'artiste Raoul Réfré à l'occasion de son concert au Transmusical de Rennes. Pour réécouter ses interviews et redécouvrir les artistes programmés au Transmusical, rendez-vous sur www.ferrarock.org.